Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec Vie et Lumière, la communauté des tziganes protestants, ici à Montpellier. Au micro, Yolande, avec Raphaël dans le studio et Léonie à l'enregistrement. J'ai le plaisir de vous présenter Gino Laborde, qui est pasteur et dont le cheminement constitue un véritable témoignage chrétien. Bonjour Gino.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de dévoiler votre parcours, ce qui n'est jamais facile. Je rappelle que si vous êtes gêné par une question, il suffit de le dire plutôt que de répondre à contre-cœur.
Bien sûr.
Alors, j'aurais pu vous recevoir dans une émission que j'anime qui s'appelle « Un protestant peut en cacher un autre » parce que votre parcours suscite l'intérêt. Mais c'est en tant que pasteur et visiteur de prison que vous intervenez et donc dans ce rendez-vous « Vie et lumière ».
Oui.
Alors, vous n'étiez pas destiné à devenir protestant, si j'ai bien compris, et même vous avez des ancêtres catholiques, si j'ai bien...
C'est bien ça.
Voilà. Alors, vous pouvez nous parler de votre famille, votre grand-père, votre famille d'origine?
Oui, oui, oui. Eh bien, je suis issu d'un grand-père qui était artiste, qui était connu dans le monde entier. Et qui, celui d'ailleurs, en faisant les tournées dans les cinq continents, il disait, Sainte-Marie de la mer, lui, il voyageait, c'est Manitas de Plata. Et le grand-père, la famille, allait au pèlerinage des gitans. Voilà, et ils faisaient ça avec leur cœur. Mais il y avait quelque chose qui ne leur rapportait pas, c'est que leur cœur n'était pas touché et il n'y avait pas non plus une véritable transformation de vie. C'est-à-dire, ils suivaient une tradition familiale. Alors, s'il fallait faire la bringue, il faisait la bringue. S'il fallait sortir, il fallait sortir. S'il fallait se bagarrer, il se bagarrait. Très rancunier. S'il fallait consommer de l'alcool, eh bien, il consommait de l'alcool. Et beaucoup plus tard, même aller jusqu'à se droguer. Donc, un pèlerinage dans cet état-là, je ne crois pas que, comme on dit, ce n'est pas catholique.
Et vous les avez fait, ces pèlerinages?
Moi, j'ai fait ces pèlerinages.
Ça ne vous apportait rien, même pas d'émotion?
Non, parce que nous, on allait au Sainte-Marie de la Mer pour trouver la famille, car il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu, c'était un moyen de se rassembler. Mais après, la nuit tombée, c'était la vie de la nuit. Ça rentrait dans les détails. Voilà, c'était... Il n'y avait rien qui retenait le peuple. Donc c'était le péché et tout ce qui s'ensuit, quoi. La vie de la nuit.
Et comment vous êtes arrivé au protestantisme, alors?
Eh bien, en faisant les fêtes, en faisant les sorties la nuit, tout ça. J'ai des parents aussi qui se sont séparés. J'ai presque un ou deux souvenirs de mes parents ensemble. Donc voilà, on a commencé à sortir, à aller dans le monde. Chacun tirer la couverture de son côté, comme on dit, hein. Chacun sauve sa peau. Et donc, on a commencé à être des chineurs, des trompeurs, des escroqueurs, et faire passer le faux pour du vrai. Ensuite, c'était les alcools. Ensuite, c'est passé à l'étape au-dessus. Très jeune, j'ai tombé dans le piège de l'enfer de la drogue.
Okay.
Et bien, ça a commencé par la fumette. Ça a commencé par la fumette, résine, cannabis, c'était tout des infusions de thé à base de bœuf et de l'huile de résine en le mangeant sur un sucre. Donc c'était vraiment de la recherche, comme on dit, de la défense. Et ensuite, on vivait la vie comme ça, quoi. Et jusqu'à temps un jour, dans nos fêtes, bien sûr, le fléau qui frappe la jeunesse aujourd'hui et même le monde entier, non pas simplement que chez nous, hein. Je pourrais dire, pardon du mot, dans toute race ou dans tout lieu. La cocaïne, elle fait partie, on va dire, du pain quotidien. Je peux me permettre de le dire ainsi. Hein? C'est un pain quotidien qu'il en faut toujours, constamment, toujours avec nous. Et voilà, après ensuite, ça a été de la cocaïne, fumer de la cocaïne. Après, c'était de l'héroïne. Et ensuite, ça a été le fracas jusqu'à me l'injecter dans mes veines. Donc, je reviens de très loin et ça m'a fracassé. Moi, j'essayais de soigner mon aspect physique. Je ne voulais pas faire découvrir à ma famille, et ni surtout à ma femme, que je faisais cela. C'était en cachette, mais après, mon visage vous trahit. Parce qu'on commence à maigrir, on commence à avoir des cernes, et on commence à avoir... ça ne va pas, ça se sent, ça se revoit. Quand quelqu'un... Il n'y avait rien qui pouvait me retenir. Donc, voilà, c'était... On a fait des bêtises, du vol et même du braquage et arraché pour se procurer une dose. Voilà, moi, je suis un gitan qui n'a jamais touché la famille, qui n'a jamais volé la famille, qui en a même qui l'ont fait. C'est normal parce qu'après, on perd toutes ses capacités de respect. Moi, c'était tromper mon prochain. Voilà. Et à force de faire des choses qu'il ne fallait pas, je me suis retrouvé devant un tribunal. On me demandait au départ 3 ans ferme, mais grâce à des relations familiales, comme le grand-père connaissait beaucoup de monde, c'est tombé à 18 mois, après ça tombait à 1 an ferme. Et dans cette prison, dans mon malheur, il y a eu un bonheur. Là où pour moi c'était tout fini, Pierre Gracias, aumônier de prison, depuis une quarantaine d'années peut-être, m'a visité à Villeneuve-Maguelone. Il ne m'a pas prêché une philosophie, ni une paroisse, ni un pasteur. Il m'a donné la petite Bible bleue de l'association Gédéon. Et moi qui n'étais pas habitué de lire, après avoir prié avec lui, j'ai lu. Et cette parole de Dieu a profondément touché mon cœur et mon être intérieur. J'étais mis devant un choix. Et bien sûr, la parole de Dieu, par amour, dira ainsi, je mets 2 chemins devant toi, la vie et la mort, à toi de choisir. Mais il dit, mais choisis la vie afin que tu vives. Et la vie, il a un nom, que celui qui a dit dans Jean 14, 6, je suis la vie, je suis la lumière du monde, et nul ne va au Père que par moi. On respecte les saints et les saintes, on ne veut pas les rabaisser en quoi que ce soit. Mais on reste biblique, comme il dit la Bible, il y a un seul intermédiaire entre l'Éternel et les hommes, c'est Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Cela a touché mon cœur. Nul homme a parlé comme cet homme. Les disciples ont dit, Seigneur, où irons-nous loin de toi? Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Et je l'ai mis à la sortie de l'épreuve, comme il est écrit. J'ai imploré la grâce de Dieu. Et instantanément, j'ai vécu le miracle. Hein? Dieu entend le cri du malheureux, comme il est écrit. Il en délivre de toutes ses détresses. Là, à genoux, avec un cœur brisé, avec des larmes de reconnaissance qu'un innocent a payé pour moi, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu existes, que tu es divin, que tu es le Christ, que tu es le Fils de Dieu, que tu as vaincu la mort, hein? Que tu entends le cri du malheureux, eh bien, Seigneur, libère-moi de cette toxicomanie, 10 ans être accro. Instantanément, j'ai vécu le miracle. Nous avons un Dieu de miracle. Hein? Eh oui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, en parlant pour Jésus. Et instantanément, j'ai été libéré. La parole de Dieu nous dit, si le Christ, le Fils de Dieu, vous a franchi, réellement vous serez libre. Eh bien, j'ai été libéré instantanément. Quand je me suis relevé, ça a été fini. Il y a eu comme un feu qui est descendu sur moi, qui a brûlé tout ce qui pouvait me tenir lié. Donc, c'est des puissances et des ténèbres. Et voilà, c'est le monde de l'invisible, cela. Et instantanément, mon cœur a changé. Je n'ai plus envie de fumer, être libéré de la toxicomanie. On prenait des cachets assez forts, des rutinol. On prenait à l'époque des 35-50. C'était des cachets assez forts. Il y avait la fiole en prison qui nous donne pour nous calmer, pour même nous ensuquer. C'est à base de morphine avec d'autres... à base de morphine et d'un produit qui vous calme. Et bien là, c'était instantanément. Mes collègues, ma famille, mes cousins me disaient, les messieurs, c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive? Tu rayonnes de joie, ma femme au parloir multiplie le même. Le monde croyait que j'étais devenu fou. Mais la Bible dira, on vous traitera de fou. Vous serez haï, vous serez rejeté, vous serez persécuté. Mais gardez courage, jusqu'à la fin, je serai avec vous.
Merci de ce témoignage. qui est très émouvant. Alors, je précise que Pierre Gracias, on le connaît à cette radio, puisqu'il a fait la première émission de Rendez-vous avec Vie et Lumière. Il a participé aussi à Un protestant peut en cacher un autre. Alors, dans notre studio, il y a Madame Laborde qui est là. Est-ce que vous voulez dire deux mots là-dessus? Non. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, si vous vous sentez, mais sentez-vous libre de le faire ou de ne pas le faire. Et alors, comment ça s'est passé? Donc, vous avez décrit la réaction de vos proches. Et dans votre famille, donc, restée catholique, dans votre... Comment ils ont réagi, les anciens?
Voilà, tout cela, il y avait un plan merveilleux. Nos anciens à nous ne comprenaient pas pourquoi les jeunes aujourd'hui, si tant de jeunes, se convertissent réellement en Jésus-Christ. Ils disaient, nous avons nos traditions, nous avons nos pèlerinages, mais... Et ils se sont mis en colère, parce qu'ils se sentaient un peu mis de côté, ou ils nous accusaient, vous avez trahi, vous êtes fait endoctriner par des sédentaires, on appelle les paillous, les gageots, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à nos jeunes? Mais ils étaient devant le fait accompli de voir que le jeune, grâce à l'évangile, a intégré la société. Plus de vols, plus d'alcool, plus de drogue, travailler, plus tabasser sa femme, travailler, rentrer à sa maison, on appelle ça un pantouflard chez nous. Hein, voilà. Mais il voyait quand même une transformation de vie. Il disait, bon, si ça peut que faire que du bien aux jeunes, laissons-le aller. Il vaut mieux qu'ils soient là, qu'ils se battent, qu'ils se droguent ou qu'ils sortent. Parce que chez nous, chez les gitans, on aime bien le côté macho, le côté mafiosi, même si on a regardé un peu trop de films, mais on aime bien être un peu ce coq fier. Vous voyez, un peu un genre. Et là, nos jeunes, il y a eu un très grand réveil. Bien sûr que nous remercions nos anciens qui nous ont dévancés dans la gloire de Dieu, comme Mans, Jimmy, Payon, Balo, Tarzan, de noms un peu bizarres chez nous. Hein,
oui.
Hein. C'était des hommes du réveil, d'à peu près, je crois, dans les débuts des années 60.
Oui.
Clément Lecossec, qui est venu apporter la doctrine de la Pentecôte, des assemblées de Dieu. Il a fallu un peu nous instruire, parce que moi, je suis un garçon qui ne connaît pas l'alphabet. Moi, je suis un garçon que je confonds peut-être à la gauche ou à la droite. Oui. La parole de Dieu, ce n'est pas une question d'éloquence, merci Seigneur pour ceux qui l'ont. Ce n'est pas une question de dialecte, c'est une question de cœur.
Et alors, comment vous êtes devenu pasteur? Parce que vous êtes pasteur et vous venez de dire que vous ne saviez pas lire, que vous ne saviez pas écrire. C'est pas évident tout ça.
Bon, j'ai toujours un handicap de écrire parce que j'ai du mal à me concentrer.
Ouais.
Et par le Saint-Esprit, quand j'ai ouvert la Bible, je la lisais, mais je la comprenais parfaitement bien, mais surtout aussi que vous voulez m'amener. Pas que la lire, mais de ce que me le demande. De me repentir, de renoncer à toutes sortes de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il y a eu une conversion, même une nouvelle naissance, comme dans Jean, chapitre 3, en disant, vers verset 10, je crois, en disant, Nicodème, il faut que tu naisses. Nicodème, un homme vieux, il dira, mais comment est-il possible qu'un homme peut-il renaître à mon âge? Donc, c'est le miracle de Dieu. Et j'aime bien la parole qui dit, hein, si le grain ne meurt pas, s'il ne tombe pas à terre, il ne peut pas apporter du fruit. Donc l'ancien Ginot est mort, c'est une nouvelle création en Christ par le Saint-Esprit. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, qu'il n'y a pas que moi, il y a plein de jeunes, des milliers, des centaines de milliers, qui grâce à l'Évangile, il y a eu une puissance, une action du Saint-Esprit. Et dès le premier jour en prison, je commençais à témoigner autour de moi. Jésus est vivant, Christ est ressuscité, et tout, c'est pire qu'une philosophie, c'est pire qu'un rabbin, un clocher ou un pasteur. La gloire revient à Jésus. Bon, ce garçon, il me dit, mais il est complètement fou là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et dès que je suis sorti, je suis allé voir mes anciens copains, qui traînaient à l'esplanade à Montpellier, les anciens SDF qui dormaient à la gare, qui c'était les copains avec qui j'ai grandi. Qu'à cause de la drogue, ils ont tout perdu. Parents, femmes, enfants, travail, foyer. Et j'ai une compassion dans mon cœur d'aller les trouver et de partager, je pourrais dire, le morceau de pain de l'Évangile. Parce que la parole de Dieu, c'est un pain. Donc, De suite, dans mon cœur, il y a eu cette activité par le Saint-Esprit d'aller témoigner et d'apporter des âmes au salut.
Et donc, vous avez fait des études de théologie. Alors, vous avez fait voilà. une formation.
Voilà. Parce que nos premiers prédicateurs à nous, ils ne faisaient pas d'école biblique. C'est ensuite, après qu'il est venu l'école biblique. Et c'est normal. C'était vraiment du spontané, du direct, conduit par le Saint-Esprit. Des prodiges et des miracles. Bon. Et ensuite, mes autres, ils disaient, écoute, moi, je croyais que tu étais pasteur. Ah, je dis, non, je ne suis pas pasteur. Je suis un chrétien avant tout. Non, non, tu es pasteur. Non, non, je suis pas un pasteur. Mais tu te comportes comme un pasteur. Tu as les symptômes d'un pasteur. Mon pasteur m'a jamais voulu me le dire, mais il le voyait. Il attendait que ce soit de ma part.
Ouais.
C'est une protection.
Ouais.
Parce que si plus tard ça allait pas, moi j'aurais pu lui dire, mais c'est toi le pasteur qui a voulu que je sois pasteur.
Oui, 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 bien sûr, il fallait que ce soit une vocation personnelle.
C'est une protection ouais. De sagesse.
Ouais.
Et j'étais allé trouver mon pasteur en pleurant, avec beaucoup de honte. J'ai attendu même quelques années pour pouvoir le déclarer. Je ne le disais pas, j'avais honte de le dire. Je disais
pour ça moi, vous pasteur, gênait de ne pas savoir lire de,
non.
Vous n'aviez pas peur de ne non. pas être capable. Non, c'était non. simplement non, non. que...
Peur de le servir, avec crainte, c'est normal.
Ouais.
Et il a fallu bien le proclamer, que Dieu m'a appelé au ministère.
Ouais. Et là, donc, vous avez entamé... C'est combien d'études, alors, pour...
Eh bien, ça dure 2 mois et demi à J1, à Paris.
Ouais.
Notre bonne école biblique.
Ouais.
Hein. Eh bien, ça marche par deux ans, c'est-à-dire 2 mois et demi.
Ouais.
Hein, de 8h du matin jusqu'à midi, de 2h à 5h. On apprend la doctrine, l'enseignement. Il y a une première année. Ensuite, il y a encore une deuxième année, l'année d'après. Encore de nouveau, 2 mois et demi. Des lectures de et après c'est bon, vous faites vos 2 ans et on attend je crois 3 ans ou 4 ans de mise à l'épreuve pour voir si c'est pas été un coup de tête, hein. Les hommes ne sont pas dans notre cœur, il y a que le Seigneur, donc ils attendent encore 3 ou 4 ans par précaution pour vous donner une carte
ouais.
de prédicateur,
oui.
C'est pas encore au pasteur,
oui, oui.
C'est prédicateur
et hein. Vous aidez le pasteur donc
ah oui, je le seconde,
oui oui, oui.
Je le seconde,
ouais.
Et après j'ai eu à cœur, bien sûr, d'être assistant avec mon pasteur, d'aller témoigner, surtout, à mes anciens collègues, mes anciens amis, ceux qu'on traînait dans les rues, ceux qu'on faisait la fête avant, dire voilà les gars, regardez, le miracle de Dieu devant vous. Je me suis en sorti avec lui, avec Jésus. Pourquoi vous ne pourrez pas vous en sortir? Jésus a dit, vous serez mes témoins. Soyez le sel de la terre. Le sel donne soif. Donc, on doit donner soif de la parole de Dieu, qu'elle-même, c'est une source qui jaillit d'en haut, qui désaltère notre âme.
Et vous allez maintenant aider Pierre Gracias, donc en prison. Vous allez avec lui témoigner de tout ça. Ça vous fait drôle de rentrer...
Oh, je vois le miracle. Jésus a dit, je briserai... Les chaînes de fer et les verrous de fer.
Ouais.
C'est des verrous de fer, là. Et merci Seigneur aussi de votre aide, de protestants. Parce que nous avons ce billet d'entrée, grâce à l'aumônerie protestante, de la Fédération de France. On vous salue à tous. Parce que sans vous, je ne sais pas au début comment ça aurait commencé. Mais avec vous, quand même, il y a eu un billet d'entrée. Bien sûr que la gloire revient à Dieu. Merci Seigneur pour l'aumônerie. Dans la mission Vie et Lumière, nous sommes redevables envers vous.
Il y a un lien très fort, donc je précise aux auditeurs, entre la Fédération protestante de France, qui regroupe des églises évangéliques, et l'église PUDF, l'Église protestante unie de France, qui est disons d'inspiration plus libérale, et puis une grande partie des églises évangéliques. Et il y a un très fort lien, effectivement, entre l'église Vie et Lumière et la Fédération protestante de France, qui aide à représenter les tziganes auprès des pouvoirs publics,
bien
qui
sûr.
En ont bien besoin
bien
quand on connaît les problèmes qu'ont ces communautés par rapport aux problèmes des locaux. La Pierre me disait qu'il avait des problèmes pour avoir un local Alors que, en fait, vous prêchez une forme de prévention contre la violence.
Mais
vous,
bien sûr,
vous
madame.
Vous êtes des gens extrêmement utiles, mais vous avez toujours cette suspicion qui s'adresse à vous. Et alors, en prison, donc, vous pouvez y aller. Et qu'est-ce que vous... Comment ça se passe, alors
Bon, c'est bénévole, hein, on le fait avec amour.
Ouais.
Je remercie... Mes frères en Christ, mes anciens pasteurs qui sont aussi dans la vie lumière et qui font un travail extraordinaire derrière les barreaux de la prison. Hein. Et dans la prison, on prêche la parole. Et c'est la parole qui fait l'efficacité dans les cœurs. Vous voyez, moi, avant, quand je voyais la police, je partais en courant. Et quand vous voyez aujourd'hui que les autorités, les chefs de police et les maires des villes nous appellent en disant... S'il vous plaît, venez nous voir. Chez nous, c'est pas bien vu quand on s'approche d'eux. Hein? Ils nous traitent un peu de... Pardon, mais collabo ou balance.
Oui.
Voilà, eux, ils sont dans leur monde, ils comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a des jeunes qui ont fait ci, ils ont fait cela. Ils ont jeté des boules de pétanque sur les bus. Ils ont jeté des boules de pétanque sur la police. Ils se bagarrent avec les CRS. Est-ce que vous pourrez un peu les calmer? Ils nous font appel en sorte, parce que nous sommes sur le terrain. Moi, j'habite à Figueroles, c'est Égilly. J'ai mon cousin à moi qui s'appelle Fernand Maraval, dit Bello. Hein? Et bien, avec une équipe, avec lui, ensemble, avec Pierre Gracias, on entoure de tout notre cœur, à bras ouverts, toute la délinquance qu'il y a sur Montpellier. Moi, je crois, sans se jeter des fleurs, madame et monsieur, je crois franchement, les autorités devraient nous considérer.
Ah oui,
parce que notre travail est dans l'ombre.
Oui.
Nous, on ne veut pas des fleurs, on ne veut pas de tapis rouges. Mais simplement, on veut de l'aide. Parce que c'est un travail, je crois, que nous, ce que nous avons pu faire, la prison ne l'a pas fait. Les parents ne peuvent pas. Les mères des enfants qui pleurent ne peuvent pas. Nous avons enterré dans nos jeunes des verdoses. On est contre la drogue. 90% de la délinquance se résume à la drogue. C'est pas jouer à le chat à la souris. Nous, voilà, on veut de l'aide. On veut pas du pognon. On veut un local prêté, j'en sais rien. On veut quelque chose de plus grand. Parce que le lieu est plus...
Parce que vous recevez beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui viennent.
Et oui, madame. Ouais, et oui, ouais. Il y a beaucoup. Des fois, on réunit peut-être jusqu'à sous le chapiteau sur Montpellier. On peut faire jusqu'à 1000 personnes, parce qu'il y a une soif de paix, de bonheur. Le bonheur, ça, il a un nom, il s'appelle Jésus. C'est pas un porte-bonheur. Hein. Il est le bonheur, c'est autre chose. Donc, il y a un fruit qui est mis à l'ombre, que les autorités ignorent, parce que je vous dis la vérité. C'est une parole qui dérange.
Et pourquoi c'est une parole qui dérange?
Parce que la Bible dira, la lumière... est venu, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Il y a un peu de l'égoïsme, il y a un peu de chacun pour soi. Voilà, moi, bien tout le monde, on dira chez nous. Mais c'est pas du tout ça. Si on aime vraiment la jeunesse, si on aime vraiment l'avenir et qu'on veut vraiment apporter du bien, je crois que l'Évangile a assez montré ses preuves. Que grâce à l'Évangile, on peut réintégrer la société.
Et vous trouvez du résultat, enfin, j'aime pas parler de résultat parce que c'est un côté un peu mercantile et un peu statistique.
Oui, mais il y a un fruit quand même à récolter.
Alors, le fruit, vous le voyez comment? Dans les jeunes qui sortent de prison ou dans ceux qui sont en prison?
On les encadre.
Vous les encadrez?
Ah oui.
Et quand ils sortent, ils viennent vers vous? Ça,
oui, ils viennent aux réunions.
Ouais.
Ils acceptent de se repentir, ils acceptent de marcher avec Jésus-Christ, ils s'engagent. Là où il y a la liberté, il y a l'Esprit de Dieu.
Alors la liberté, justement, comment concilier la liberté avec le total engagement? Est-ce que ce n'est pas un peu difficile de dire aux gens « vous êtes libres » et puis de les emmener vers...
Il y a une inéquilibre en toute chose. Et la parole de Dieu, elle est très, très équilibrée. L'apôtre Paul dira « ne faites pas un prétexte de la liberté pour faire n'importe quoi ». Moi, je suis un chrétien, je me préserve. C'est-à-dire, là où on fait la fiesta, je ne me laisse pas entraîner par ma chair. Ce n'est pas ma place, ce n'est pas mon endroit, là. Vous avez vu, vous, par exemple, une soutane en discothèque? Je crois pas. Vous comprenez. Voilà. Le temps nous manque. Mais voilà, si après, il bronche, ben, on tend toujours la main. C'est pas parce qu'une brebis est galeuse que tout le troupeau est galeux. Pardonnez-moi, hein, j'abrège mes paroles. Mais on est là pour le soigner, on est là pour le guérir, on est là pour l'aider. On le rejette pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui peux être mal, mais demain aussi, ça peut être toi. Donc, on ne cache pas le péché. Il y a des règles à suivre dans la parole de Dieu, que dans nos réunions, on veut quand même du sérieux. On veut pas de n'importe quoi. C'est tout à fait normal. On reste biblique et tout par amour et tout par grâce. On force pas. Mais on conseille à s'unir et à respecter, à honorer le Christ. Il marchait comme le Seigneur veut qu'on marche.
Eh bien, on va se quitter là-dessus. Alors, juste une dernière réflexion. Vous m'avez dit que vous étiez appelé auprès d'un enfant qui était mourant. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps sur la brèche.
On le fait avec cœur. Quand une maman il donne à manger à un bébé en pleine nuit, qu'il faut qu'il se lève plusieurs fois, il le fait avec cœur.
En tout cas, vous donnerez nos prières à cet enfant et à sa famille. Et puis, nos remerciements au travail que vous faites, à votre communauté. Et donc, merci d'être venu. Merci à Léonie pour l'enregistrement. Et puis, je donne rendez-vous à nos auditeurs pour la prochaine de Vie et Lumière, donc dans 2 mois. Au revoir.
Merci et que Dieu vous bénisse.